Marie-Hélène Rencontre. Le concept du balado est bien simple. En fait, c'est d'informer les citoyens et les citoyennes sur des sujets et des enjeux qui vous touchent. C'est aussi pour briser certaines idées préconçues sur, entre autres, la politique fédérale et bien sûr, en apprendre davantage sur votre député. Donc, les invités vont me poser des questions et je leur poserai par la suite des questions sous forme d'une discussion très conviviale. Aujourd'hui, je suis assise avec une amie, une extraordinaire coordonnatrice générale de la Passerelle et je nomme Roxane Prenovost. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Roxane!
Bonjour Marie-Hélène!
Ça va bien?
Ça va bien, merci.
Je suis contente que tu aies accepté qu'on puisse discuter ensemble de toi, mais aussi de l'organisme La Passerelle.
Ben écoute, avec grand plaisir. Je suis très contente de l'invitation aussi. Ça fait toujours un immense plaisir de pouvoir partager sur l'organisme, partager, être la voix finalement des femmes et des enfants victimes de violences conjugales. C'est un immense privilège pour moi. Donc, écoute, Marie-Hélène, moi, j'ai envie de commencer tout de suite, d'emblée.
Ben oui!
Parce que quand j'ai eu l'invitation, je me suis dit, je vais en profiter pour que les personnes qui vont écouter ce balado-là aient plus d'informations sur c'est quoi la réalité des femmes dans la politique, comment ça se passe pour toi dans ce monde-là qui est la politique.
C'est vraiment intéressant parce que ça a été une de mes questions fondamentales en 2019 quand j'ai osé accepter me présenter, parce que il y a des parallèles à faire et des comparatifs à faire. Des collègues au municipal vivent autre chose que plusieurs en politique fédérale. Peut-être parce qu'on sent moins de proximité et que, dans le fond, on fréquente pas deux, trois épiceries, mais plutôt une centaine. Donc, on n'est pas autant proche des gens, mais ceci étant dit, c'est important que les femmes y soient. Puis à chaque fois, Roxane, que je fais des conférences, d'avoir osé, les femmes me disent « qu'est-ce que ça prend? » C'est pas la porte qui est fermée. La porte est grande ouverte. Il faut oser et il faut rester vraiment ce que nous sommes.
Wow, j'aime ça.
Puis souvent, et de plus en plus, il y a de plus en plus de femmes. C'est sûr qu'à Ottawa, on est une centaine sur à peu près là, sur 338. Donc, c'est pas assez. Mais il faut faire attention. Il faut regarder celles qui veulent s'impliquer. Et celles qui veulent s'impliquer, ce sera les meilleures. Et non pas un quota qu'on essaie de respecter. Et à chaque fois qu'on parle de parité, moi, j'ai un petit peu de difficulté parce que c'est plutôt quand tu as le goût de partir en affaires, de te lancer en politique, de coordonner un organisme pour aider quiconque, dont entre autres les femmes, on a tous notre place. Et je m'en rends compte qu'on évolue de plus en plus, mais il faut rester nous-mêmes.
Mais tu dirais que pourquoi il y a aussi peu de femmes, finalement, une centaine sur 338, c'est quand même peu, c'est loin de la parité. Est-ce que, tu sais, je pense pas que c'est parce qu'il n'y a pas assez de femmes qui ont du talent ou qui ont ce désir-là, mais c'est quoi les embûches, finalement, des femmes pour accéder à ce milieu-là?
C'est tellement une belle question et on en a parlé beaucoup en comité dernièrement. Parce qu'on se disait, est-ce qu'on continue à utiliser des plateformes électroniques, dont le Zoom, pour pouvoir faire notre travail comme parlementaire? Parce que, vous le savez tous, c'est 26 semaines par année. Et souvent, je quitte le dimanche, je reviens jeudi soir. J'arrive souvent à l'heure quand il y a des 40e d'un organisme comme la Passerelle. Mais c'est un choix. Alors, comme on parlait de ça, on s'est rendu compte que l'accessibilité et la facilité pour les femmes qui ont des enfants, surtout des jeunes, parce qu'il y en a de plus en plus, Pense au Parlement. Ça fait à peine quelques années qu'il y a des toilettes. Maintenant, on peut avoir des toilettes mixtes, mais il n'y avait que des toilettes pour hommes.
Ah oui!
On a beaucoup à franchir.
En effet.
Et ça, là, c'est quelles sont les mesures qui nous permettent de dire après 17 ou 18 heures, on va aller voir nos enfants qui sont là avec nous dans la semaine ou qui maintenant il y a une garderie. Mais non, on finit parfois à minuit et on doit être à la Chambre des communes. Donc, c'est vraiment un choix de conciliation, vie personnelle et le travail. Et dans mon cas, je ne pensais pas vraiment pas aimer autant que ça, mais d'être sur mon X actuellement. Et quand j'avais 30 ans, j'ai un peu vieilli, là. Quand j'avais 30 ans, je ne pouvais pas m'imaginer d'être loin aussi longtemps de mes enfants. Et donc, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont prêtes, mais il faut savoir à quel moment on a envie de le faire. Et pour ma part, ben, c'est même mes enfants qui ont dit maintenant que ton père, tu n'as plus à veiller des dizaines d'heures par semaine et je sais que tu veux aider. Ben, là, je pense que la politique, ça va être un levier extraordinaire. Ils étaient plus vieux, ils n'étaient pas au primaire. Donc, il faut oser, et ce n'est pas d'ouvrir les portes qui sont importantes, mais c'est de dire aux femmes, si vous avez envie, on vous attend. Et s'il le faut, on va vous préparer. On va s'assurer d'avoir tout ce qu'il faut pour qu'on ait un équilibre.
Oui, bien, puis je pense que ici, il y a de plus en plus d'ouverture, de plus en plus de façon d'améliorer l'accessibilité. Comme tu dis, le Zoom, tu sais, je pense que c'est intéressant. Tu sais, si les femmes, même les hommes, peuvent participer par Zoom, ça fait qu'ils sont peut-être, même s'ils finissent tard, sont chez elles. Tu sais. Donc, ça peut être intéressant. Mais en même temps, je trouve que ça démontre aussi à quel point ça repose bien souvent encore plus sur les mamans, hein, toute la charge parentale et tout ça. Et ça fait que c'est moins accessible, là, le milieu politique, à cause de ça. Mais j'aurais aussi envie de t'entendre, Marie-Hélène, sur, pour toi, en quoi c'est différent les femmes en politique versus les hommes? Qu'est-ce que ça amène comme couleur? Pourquoi c'est important qu'il y ait des femmes qui osent et qui aillent aussi en politique pour faire la différence?
Bien, en partant, c'est le reflet de notre société. Hein? On est à peu près 50-50. Donc, c'est au même titre qu'on a besoin des plus jeunes, des plus sages, pour ne pas dire les moins jeunes. Et c'est fondamental parce que quand on pense à un projet de loi, on pense à des programmes, bien, il faut avoir la vue d'ensemble sur quels sont les besoins, quels sont les impacts. Et ça prend la représentativité des individus. Donc, les femmes vont avoir une touche différente, mais extrêmement constructive. Je me permets de te mentionner que ce que je fais au caucus du Bloc québécois comme présidente, j'ai ma touche de grande ouverture, la bienveillance qui est importante pour moi, c'est-à-dire comment conjuguer entre la tâche qu'on a à faire, comment on fait le processus ensemble et évidemment qu'on ait un climat vraiment propice aux échanges. Et je n'étais pas là avant, mais depuis les derniers mois, je peux constater qu'on aurait eu droit à des... un petit peu des discussions beaucoup plus échauffées. Et j'ai l'impression que ma touche fait une différence parce que peut-être que je suis une femme. Et c'est ma bienveillance naturelle également qui fait la différence. Puis en même temps, on le voit quand les femmes d'affaires, je suis aussi une femme d'affaires, et il y a souvent un angle qu'on va apporter de différent, de nouveau, qui nous permet, dans le fond, d'avoir quelque chose de... un projet qui est complet.
Oui, bien, tu sais, moi, je dis souvent, les femmes, on crée la vie quand même. Hein? On met au monde des êtres humains. Donc, on a ce pouvoir-là créateur, créatif. à l'intérieur de nous. Puis je pense que c'est, ça amène une touche différente dans tout ce qu'on fait, finalement, comme tu dis, autant en affaires qu'en politique, dans toutes les sphères là, de nos vies. Donc, ça peut être intéressant là, de le voir de ce côté-là au niveau politique. C'est effectivement.
Mais tu sais que toi, là, Roxane, tu te donnes comme ça ne se peut pas autant qu'une politicienne parce que ça fait plusieurs années que tu coordonnes de façon générale la passerelle qui vient tout juste de fêter ses 40 ans. J'aimerais ça que tu me parles de l'organisme et tout le développement qui s'est fait parce qu'on a travaillé ensemble quand on était dans le développement social juste avant d'être en politique. Parle-moi donc de la passerelle aujourd'hui.
Ben oui, écoute, la passerelle, effectivement, on a eu 40 ans, on l'a fêté dernièrement. Donc, c'est une maison d'aide et d'hébergement pour les femmes et enfants victimes de violences conjugales située à Mont-Laurier. En fait, en 40 ans, là, la passerelle, ça a tellement évolué. Puis, tu sais, je dis la passerelle, mais toutes les maisons d'hébergement au Québec aussi. Tu sais, il y a 40 ans, quand une femme et des enfants vivaient dans un contexte de violence conjugale, mais souvent, ils étaient comme pris là-dedans. Tu sais, il n'y avait personne pour les accueillir, il n'y avait pas d'organisme. La famille, les amis, souvent, ne voulaient pas s'en mêler parce que c'était du domaine privé, ce n'était pas des affaires qu'on pouvait parler. Ça se passait entre les conjoints, il fallait qu'ils règlent ça ensemble. Il y avait des fois l'Église qui était là, qui pouvait accueillir puis soutenir. Mais maintenant, tu sais, les femmes et les enfants ont accès à une panoplie de services. Ce n'est pas seulement de l'hébergement. C'est sûr que l'hébergement, ça demeure le service principal des maisons. C'est ce qui permet aux femmes et aux enfants de quitter le milieu violent, d'être accueillis dans un milieu sécuritaire et de recevoir la panoplie de services. Mais il y a également tout le volet, tu sais, d'aide téléphonique, de rencontres individuelles, un accompagnement dans l'ensemble des démarches. Donc, quand on arrive dans les services d'une maison d'hébergement, on a accès à tout ce qu'on a besoin pour reprendre du pouvoir sur sa vie, reprendre le contrôle sur sa vie, réorganiser sa vie au complet. Fait que, tu sais, que ce soit un accompagnement dans les démarches judiciaires, juridiques, pour la garde des enfants, les démarches qui parfois peuvent être présentes avec les centres jeunesse, par exemple, au niveau des habiletés parentales, d'avoir du soutien par rapport à ça, parce que c'est les contextes de contrôle et de violence ont un impact significatif sur les habiletés parentales, sur le lien mère-enfant aussi. Donc, nous, on est là, on a des intervenantes de jeunesse qui sont formées, qui vont travailler directement sur ça, qui vont travailler avec les enfants sur les conséquences de la violence aussi. Donc, un accompagnement pour refaire leur budget, un accompagnement pour retourner aux études, par exemple, ou sur le marché du travail, un accompagnement au niveau de leur santé pour tous les impacts là, que la violence peut avoir apporté aussi dans leur vie. Donc, c'est vraiment là toute une panoplie. Puis on offre aussi bon, des ateliers de groupe, de la sensibilisation dans les écoles. Puis il y a tout un volet d'aide aux proches aussi. Parce que c'est pas simple. Tu sais, quand on voit une femme ou des enfants qui sont pris dans ce contexte-là, des fois, on ne sait pas trop comment réagir. Hein? Des fois, on va être en réaction, on va dire « Voyons, mais qu'est-ce que tu fais là? Puis pourquoi tu ne sors pas de là? »
On sent une pression.
Oui, puis tu sais, dans les faits, ce n'est pas si simple. Hein? Tu sais, c'est souvent la personne qu'on aime qui nous fait vivre de la violence, qui nous fait vivre du contrôle. C'est une personne avec qui on a construit quelque chose, avec qui on a des enfants, bien souvent aussi. Donc, y a plein de façons d'accompagner ces personnes-là quand on est une proche, un papa, une amie, une collègue de travail. Donc, les gens peuvent aussi avoir des services là, de l'organisme pour accompagner les personnes qui vivent ça. Donc, les professionnels aussi. T'sais, nous, on a vraiment une expertise au niveau de la violence conjugale. Donc, on peut aider tous les différents intervenants là, qui peuvent être amenés à être auprès là, autant des victimes, de leurs enfants, des conjoints aussi. Donc, c'est vraiment très, très complet.
C'est une panoplie de services. Et là, souvent, quand on dit on vient faire un séjour, mais le séjour, j'imagine qu'il peut être variable dépendamment de ce qu'on a à acquérir pour se sentir avec tout le pouvoir dont on dispose. Donc, j'imagine que c'est pas si temporaire que ça. Ça peut prendre quelques semaines, j'imagine.
Oui, c'est vraiment variable, comme tu dis. T'sais, des fois, ça va être un on appelle ça comme un dépannage, tu sais, quelques nuits. Mm-hmm. Des fois, ça va être quelques mois aussi.
Okay.
Des fois, c'est quelques semaines. On est vraiment dans une approche d'intervention féministe et une approche globale. Fait que c'est vraiment, on veut partir des besoins réels des personnes qu'on accompagne. Donc, c'est pas la même chose pour tout le monde. Hein? On n'est pas dans un contexte de justice, mais plus dans un contexte d'équité.
Mm-hmm.
Donc, tu sais, parfois, bon, exemple, on peut accueillir une femme immigrante qui n'a pas tous ses papiers d'immigration, qui connaît peu ou pas la langue et tout ça. Tu sais, c'est sûr que ça va être un processus qui est beaucoup plus long avant que tout soit réglé pour qu'elle soit en pleine possession de ses moyens, en pleine possession de sa vie. D'autres fois, c'est des femmes qui vont avoir moins d'enjeux au niveau de leurs finances, qui vont avoir plus de personnes dans leur entourage qui vont pouvoir les aider, tout ça. Donc, on est vraiment dans toutes sortes de cas de figure différents. Ce qui s'en vient très, très bientôt, en fait, pour la passerelle, c'est un nouveau volet de service et on en est très fiers. C'est une
qui consiste en... Ah oui?
La maison d'hébergement de deuxième étape. Donc, c'est... vraiment tout un nouveau volet de service qui sont des logements pour les femmes et les enfants dans un contexte de violence conjugale qui perdure. Donc, nous, on appelle ça la violence conjugale post-séparation. Parce que, bon, souvent, les gens pensent, c'est bon, ben, t'as juste à t'en aller de là,
mm-hmm.
tu sais, mais c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Souvent, les femmes et les enfants vont être beaucoup en danger quand ils décident de prendre la décision de quitter. Parce que, en fait, la personne qui exerce le contrôle perd ce contrôle-là. Donc, mm-hmm. il va y avoir toutes sortes là, de manifestations.
De mécanismes de défense.
De violences qui vont comme s'intensifier. Et ça peut vraiment perdurer très, très longtemps. Donc, des fois, même après un hébergement, maison d'hébergement, on a beau avoir retrouvé ses moyens financiers, retrouvé un logement, retrouvé, bon, des personnes...
On n'a pas nécessairement envie de déménager, hein?
Ben non plus.
Quitter notre milieu.
Et par contre, même si on a trouvé tout ça, si y a pas de mesure de contrôle autour du conjoint qui a des comportements violents, s'il n'y a pas de détention, par exemple, et qu'il continue à y avoir du harcèlement, de la violence et tout ça... Bien, souvent, les femmes et les enfants vont avoir besoin d'un lieu qui est très, très sécurisé. Et ça, c'est assez complexe à mettre en place dans un logement ou une maison ordinaire. Donc, la maison d'hébergement de deuxième étape vient répondre à ce besoin-là.
Il y en aura combien?
Ça va être 7 unités de logement, qui devraient, en fait, la construction devrait commencer là, fin 2023 pour une ouverture en 2024. Et ça permet, en fait, c'est sûr que c'est des logements hautement sécurisés, mais il y a aussi des personnes, des intervenantes, en fait, sur place, une continuité dans l'accompagnement, dans toute la panoplie de services aussi, qui seront comme les mêmes qu'en maison d'hébergement de première étape, avec quelques différences près, là, étant donné... Du processus, du niveau d'avancement, des processus des femmes et des enfants. Mais vraiment, là, ça va être un bel ajout là, pour
si vous êtes un employeur important, parce que ça doit en prendre des intervenantes ou intervenants qui aident.
Oui, bien, puis tu sais, c'est sûr que les maisons d'hébergement, c'est ouvert en tout temps. Hein? C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de pause. Fait qu'il y a toujours quelqu'un qui est là. On a une équipe autour d'une vingtaine de personnes. Avec l'ajout du volet de service, ça devrait être autour de 24-25 personnes. Donc, oui. Puis, on a la meilleure équipe au monde en plus. On a vraiment là, des femmes qui croient profondément.
Peut-être parce qu'ils ont la meilleure coordonnatrice au monde.
Ah, j'espère. Je ne m'attribuerais pas le titre, là, mais... Je fais partie de cette belle équipe, donc ça me plaît beaucoup. Puis, ce que j'avais envie aussi de mentionner, tu sais, dans les autres choses qui se sont mises en place, c'est pas directement dans les services de la passerelle, mais la passerelle a été un leader incontournable pour mettre en place ce service-là, et c'est la cellule d'intervention rapide dans les Laurentides.
Mm-hmm.
Donc, nous, elle s'appelle Vigie. Pour violence, intervention, gestion immédiate ensemble. Donc, c'est un procédé qui permet aux intervenants de s'asseoir rapidement autour d'une même table, bien, autour d'un même Zoom, quand il y a des situations à haut risque, homicidaires ou suicidaires.
Okay.
Ça s'est mis en place dans les derniers mois. Nous, à la passerelle, on est l'organisme fiduciaire là, d'un financement du secrétariat à la condition féminine, justement, pour mettre en place ce beau volet-là. On a embauché une nouvelle coordonnatrice là, qui s'occupe exclusivement de ce service-là et elle couvre l'ensemble des Laurentides.
Vous devez avoir beaucoup de références.
On a énormément de références, énormément de cas. On analyse les situations pour voir si on peut lever la confidentialité. Puis ensuite, on s'assoit ensemble, tous les partenaires, et ça fait une énorme différence.
Mais c'est parce que là, on est sur trois plateaux. Un plateau de prévention, parce qu'on l'a vu dans les derniers mois, le nombre de féminicides n'est pas en décroissance, malheureusement. Non. Donc, il faut prévenir. Puis en même temps, il y a une première ligne directe qui semble être quand même temporaire. Et que là, avec les 7 unités, là, c'est une protection pour perdurer. Je ne t'ai pas posé combien de temps les baux vont être signés, mais j'imagine que c'est pour un moyen terme.
C'est logement-là. C'est du moyen terme, effectivement.
Fait que vous agissez sur tous les niveaux.
Oui, puis avec la cellule de crise aussi, c'est ça vient comme tout consolider, tu sais, puis permettre vraiment aux femmes et aux enfants d'avoir accès à tous les scénarios de protection possibles, tu sais, finalement. Donc, ça fait une grosse différence.
Qu'est-ce qui a changé, Roxane, qui est sur le terrain? Et à nous, on voit ce qui se passe. On a travaillé pour enlever l'accès aux armes d'assaut. On essaie de vraiment contribuer sur tous les plans, mais il n'en demeure pas moins que sur l'enjeu de la santé mentale et particulièrement ce que les femmes peuvent vivre. Qu'est-ce qui a changé, bien que maintenant on le dénonce plus facilement, je crois? Selon toi, là, dans notre évolution, on se dirige vers quoi?
C'est une grande question, ça, vraiment. Je vais vraiment parler de moi. C'est des discussions qu'on a quand même en équipe et tout ça. C'est dur de mettre des statistiques là-dessus. Mais souvent, ce qu'on observe quand même, c'est des changements au niveau des croyances qui, au fond, n'ont pas tant évolué. En plus, comme migré, si on veut. Dans le temps, exemple du guide de la bonne épouse là, de 1960.
Ah, là, oui, j'ai lu ça.
Le temps de ma grand-mère, mais pas si loin de ma mère non plus, où il y avait quand même différents enjeux dans la société, où les femmes se sentaient dans une obligation de soumission envers leur conjoint.
Faire son devoir.
Faire son devoir, être la maman, bon, et tout ça. Il y a eu comme un soulèvement, tu sais, à un moment donné, là, dans les années 70, justement. Puis c'est pas, tu sais, je pense que c'est pas étranger à
la révolution tranquille, hein,
des maisons d'hébergement, là, tu sais, dans les années 80 aussi, où les femmes en ont eu assez d'être obligées, assez, tu sais, de se soumettre à différentes formules, là, tu sais, dans leurs relations, mais dans la société en général. Maintenant, ce qu'on voit un petit peu plus au niveau de la socialisation, c'est des femmes qui ne sont pas soumises. C'est des femmes qui ont un petit peu plus de caractère. C'est des femmes qui sont un petit peu plus affirmées, mais qui, malgré tout, continuent d'être très, très valorisées dans ces rôles profondément ancrés dans le féminin. Mm-hmm. Donc, tu sais, si tu es toujours belle et bien mise, ben là, tu vas toujours plaire à ton chum, puis il n'ira pas voir ailleurs. Si tu fais telle chose, là, ça veut dire que tu es une bonne blonde ou que tu es une bonne fille ou une bonne employée. Fait qu'il y a des schèmes de pensée qui demeurent comme très, très présents. Puis moi, ce que je trouve inquiétant là-dedans, c'est qu'on n'est plus dans une obligation. On le fait pour être valorisé. Donc, on a moins d'outrage, on a moins d'indignation par rapport à ça. Parce que c'est plus genre, t'es obligé de t'habiller comme ça pour plaire ou t'es obligé, tu sais, d'être une bonne cuisinière pour plaire à ton conjoint. Bon, je pourrais donner 40 000 exemples. Là, je pense que l'idée, elle est quand même compréhensible. Mais c'est ça, tu sais, on voit passer partout. Sur les réseaux sociaux, dans les petites revues, dernièrement, là, les 10 choses à faire pour être la blonde parfaite, des choses comme ça. Et avec la venue aussi de toute l'accessibilité de la pornographie, ça met une pression exceptionnelle sur les femmes au niveau de leur sexualité qui continue d'être valorisée dans répondre aux besoins de l'autre plutôt que de découvrir nos propres besoins en tant que femme et tout ça. Puis c'est ça, c'est moi le danger que j'observe derrière ça puis qu'on rencontre aussi en maison d'hébergement, c'est des femmes qui ont moins d'outrage puis qui se sentent, tu sais, c'est correct, plus égal à l'homme. T'sais, ça, c'est tant mieux. Ça, c'est un gain. Mais en même temps, dans ce sentiment-là, il n'y a pas moins de violence. Il y a juste moins d'indignation sur « Oui, mais moi, je le fais parce que je veux être ça. » Mais tu veux être ça pourquoi? Tu veux-tu être ça parce que vraiment, c'est profondément ton besoin puis tes désirs ou parce que c'est ça qui est valorisé dans la société en ce moment? Donc, il y a ce côté-là, des fois, qui m'inquiète, je te dirais. Tu sais, quand je vois les plus jeunes filles, les nouvelles générations. Puis, il y a d'autres côtés qui sont intéressants, tu sais, justement, de femmes plus affirmées, qui sont comme intéressées, intéressantes, qui s'informent et tout ça. Donc, on voit un peu les deux. Ce qu'on observe aussi chez les plus jeunes générations, souvent, c'est... ils vont avoir comme un grand besoin de comprendre l'autre, comprendre pourquoi l'autre me fait vivre du contrôle. Donc, ils vont être comme, malheureusement, décentrés d'elles-mêmes et plus centrés sur l'autre. Ça fait partie aussi de tout le contrôle qui se met en place. Hein. Mm-hmm. Le contrôle, c'est ça, c'est de vouloir comme centrer l'autre sur ses besoins en tout temps et décentrer l'autre de ses propres besoins. Donc on le voit quand même encore... énormément, malheureusement. Puis, tu sais, on a les nouveaux concepts depuis quelques années du contrôle coercitif qu'on regarde en violence conjugale. Donc, c'est un contrôle, c'est comme une micro-réglementation, une micro-régulation du quotidien de l'autre qui doit comme se soumettre à plein de règles, mais qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas comme obligatoires, mais que si on agit de telle façon, bien, le conjoint va nous valoriser, va pas nous bouder, va pas, tu sais.
Donc, on est dans l'évitement.
On est dans l'évitement, puis c'est comme quelque chose de plus sournois qui se met en place, malheureusement, moins facile à identifier. Donc, c'est...
Parce qu'on parle beaucoup d'harcèlement psychologique là-dedans et d'influence.
En effet.
Fait qu'il ne faut pas gêner, dans le fond, pour toutes celles et même... ceux et celles qui se sentent pas bien dans une relation, de oser. C'est la même chose dans tout. Et là, ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de changements, mais qu'il y a une grande évolution parce que la panoplie des services, autant en amont que post-intervention, c'est extraordinaire. Et on est choyé de vous avoir chez nous. Et comme je me promène pas mal partout dans la circonscription et j'ai des collègues qui vivent à l'extérieur même du Québec, c'est une grande fierté, les organismes à but non lucratif qu'on a. Et je tiens à souligner vraiment tout ton travail parce qu'on a œuvré ensemble pendant 7-8 ans lorsque j'étais directrice de la Corporation de développement communautaire. C'est là que j'ai appris beaucoup à te connaître et je pense que Roxane, tu es au bon endroit pour aider les bonnes personnes et il n'y a pas de doute, tous les projets de développement sont bien mérités. Et une chance qu'on t'a.
Oh, Marie-Hélène, merci, t'es adorable. Mais tu sais, j'ai envie vraiment de te renvoyer le compliment. Tu sais, je sais que tu es une femme qui œuvre aussi pour les femmes, mais pour la population en général. Ça t'a toujours tenu à cœur aussi dans toutes tes implications. Puis, tu sais, c'est merveilleux parce qu'on se retrouve, on continue de travailler ensemble sur certains projets et tout ça, tu sais. Puis, je pense que c'est comme ça qu'on fait la différence. Puis, tu sais, je le disais d'emblée en début de balado, mais tu sais, quel grand privilège quand on peut faire ça pour toutes celles qui n'en ont pas l'occasion. Qui n'ont pas cette force-là, cette énergie-là, mais tu sais, cet accès-là non plus. Quand on a tous ces accès-là, il faut les utiliser, puis tu les utilises à bon escient. Donc, merci. Au nom de toutes les femmes et de tous les enfants qu'on accompagne, merci.
Soyons nous-mêmes, aimons-nous, mais aussi osons. Oui. C'est vraiment... ça a été super agréable, Roxane. Je te remercie.
Merci, Marie-Hélène. Continue ton excellent travail.
Gentil. Vous souhaitez partager ou réécouter ce balado? Rendez-vous sur mes différentes plateformes numériques. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.